C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, il n'y aura pas d'accusation criminelle dans le dossier du centre de soins de longue durée Aaron. Le DPCP considère qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'y a pas matière à aller devant les tribunaux. Il y aura des enquêtes du coroner, il y a eu des procès au civil, il y a des ententes à l'amiable qui ont été conclues. Comment on réagit à une décision comme celle-là? Est-ce qu'on aurait dû aller au criminel?
Ben, une décision surprenante, étonnante pour certains, décevante pour d'autres. Mais avec un peu de recul, je me suis dit, ça ne m'étonne pas que le DPCP n'ait pas déposé d'accusation criminelle. Pourquoi? Parce qu'un, il y a une enquête publique qui est en cours de la part du bureau du coroner. Un, l'enquête publique n'est pas terminée. Elle reprend le 7 septembre prochain. Et deuxièmement, dans la chronologie des événements, rappelez-vous, à un moment donné, les autorités du CHSLD ont téléphoné au CIUS du centre sud de Lille pour à Montréal évidemment pour parce que le CHSLD est à Dorval pour dire venez nous aider là, on sait plus quoi faire. On est débordé par la situation. Moi, je crois que le DPCP, c'est ce qu'ils ont dit dans leur communiqué, ont fait le tour de la preuve puis sont arrivés à la conclusion que le dossier était pas assez solide pour porter des accusations aux criminels. Marqué, quand on regarde ça, on se dit, ben voyons donc, il y a quand même une quarantaine de personnes qui sont décédées dans des conditions absolument abominables. Le CHSLD Aaron, ça a marqué notre imaginaire. Ça a fait une tache noire sur un dossier, sur le dossier du ministère de la Santé, mais collectivement, il y a un échec incroyable. Des personnes, faut juste se le rappeler, là, des personnes âgées, abandonnées, mortes de faim, de soif, déshydratées. C'est épouvantable. Mais sur le plan juridique, je suis pas très étonnée de la décision du DPCP.
C'est quand même surprenant quand tu dis ça, là, morte de faim, déshydratée, morte de soif. Trois employés pour 133 personnes, puis finalement on porte pas de charge. J'ai un petit texte ici à lire, c'est amusant. Un petit paragraphe de rien du tout. Pour déclarer un accusé coupable, le jury devait conclure qu'il avait omis de faire quelque chose qu'il était de son devoir d'accomplir et ce faisant qu'il avait montré une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. Donc ça n'a pas pu être démontré. Mais ce texte-là ne correspond pas. Je ne l'ai pas lu pour Aaron, c'est le texte pour Lac-Mégantic. Donc c'est la même chose. C'était les mêmes conclusions. 47 morts à Lac-Mégantic aussi. Même conclusion. Tu ne peux pas faire la démonstration que la personne a eu un comportement téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. Il devait faire quelque chose, puis il ne l'a pas fait. L'incendie à Île-Verte aussi, il avait tué, je ne me rappelle pas combien de personnes. Là.
Ouais.
À chaque fois, ce sont des cas où il faut que tu puisses démontrer que la personne, de façon consciente, a menti, a triché, a posé des gestes qui menaçaient autrui.
Mais avec une définition comme ça... A posé des gestes intentionnellement.
Oui, c'est ça. Avec une définition comme ça, personne ne sera jamais coupable.
Ben voilà, ben là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que si on quitte le terrain de la criminalité, on peut aller sur celui de l'imputabilité. Parce qu'après le CHSLD Aaron, il y a d'autres enquêtes sur d'autres CHSLD de la part du bureau du coroner. Entre autres, Yvon Brunet et je pense c'est Sainte-Rose. Mais à un moment donné, dans notre société, est-ce qu'on peut s'assurer que, en pareille circonstance, que des gens soient responsables? Les propriétaires en question ont eu seulement un blâme sur le de nature, sur le plan organisationnel, parce que ils ont failli à la tâche. Il y a une action collective qui a permis à des proches, à des enfants, des résidents d'être dédommagés de plus de 5 millions de dollars. Mais dans le fond, la question, c'est quelle leçon on va tirer de ce qui s'est passé à Aaron et dans d'autres CHSLD? Ça pose la question de l'imputabilité. Qui est responsable de quoi dans notre société?
Mais en tout cas, eux autres sont juste responsables de collecter le chèque. Tu sais, je me demande, j'aimerais ça voir où ils habitent après avoir tué 47 personnes.
Fâché, là.
Non, j'aimerais ça voir la maison à Westmount, là, après avoir eu des comportements de gestion qui ont mené au décès de 47 personnes, pas de façon directe, peut-être de façon indirecte. La Cour a décidé que c'était impossible de faire un lien direct, mais quand il y a eu l'analyse pour la plainte au civil, on est quand même arrivé à la conclusion qu'il y avait une organisation déficiente du travail, tu dis?
Absolument.
Puis on paie les employés au minimum, on leur donne un maximum de tâches. Méconnaissance du domaine des soins de santé chez les gestionnaires. Ils ne savaient pas comment opérer cette affaire-là.
Voilà.
Donc, ils étaient là pourquoi, eux? C'était quoi?
Ben, le chèque.
Ben pour le chèque.
Voilà. Malheureusement, le chèque. C'est le cas, c'est le propre. Souvent, je ne vais pas généraliser, mais c'est souvent le cas pour des gens qui opèrent des résidences privées. La réaction du gouvernement hier, c'était quoi? Celle en particulier de François Legault. C'était de dire, ben, on se mêle pas de ça, mais en même temps, on va poser des gestes et on a posé des gestes pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. OK. Concrètement, ça veut dire quoi? Nationaliser tous les CHSLD dits privés? Ça veut dire quoi accompagner? Tu sais, concrètement, en fait, le flou, il y a encore un flou par rapport à les mesures qu'on met en place pour s'assurer effectivement que ça ne se reproduise pas, pardon. Et pour ce qui est de la nationalisation, c'est très coûteux, la nationalisation. Ça veut dire que tu prends un contrat qui appartient à un privé, puis tu le compenses pour transformer le CHSLD en CHSLD public. Mais là, je pense que le gouvernement est plus préoccupé de construire les maisons des aînés que de nationaliser des CHSLD au Québec. Mais en bout de ligne, moi,
et les critères au public, là, pas les critères, mais comment je dirais, il y a certains centres qui performent bien, publics, mais il y en a d'autres qui performent pas si bien que ça. C'est pas parce que ça va devenir tout public que tu viens de régler ça non plus.
Ben absolument, tout à fait. Sauf que dans ce dossier-là, il y a la question, je reviens là-dessus, parce que moi, c'est fondamental. On dit toujours, dans notre société, personne n'est responsable de rien. Mais il faut que ça ait un sens, l'imputabilité, la reddition de compte. Là, aujourd'hui, CHSLD Aaron est fermé. Il y a les personnes âgées sont décédées dans des circonstances épouvantables. Les familles ont été dédommagées. Puis là, c'est comme si on cochait la to-do list puis on dit, bon, ben, next, là, c'est quoi le prochain? T'sais, c'est comme société, je pense que
mais là,
ça
comme,
peut pas s'arrêter là.
C'est Dubé qui dit, on a mis des gestionnaires dans les CHSLD, un par établissement, alors qu'il n'y en avait pas avant. Là.
Oui.
Ben, ça, c'est ben, y a au moins quelqu'un de responsable. Jamais je croirais si t'es DG ou d'un centre. C'est toi le responsable ultime.
Oui.
Mais aussi, il y a eu le changement des conditions de travail
aussi.
Donc, et salariales, l'embauche de 10 000 personnes. Alors, ça, c'est le dossier. C'est drôle parce que je vais parler des dossiers qui se règlent jamais tantôt. Mais ça, c'est un dossier où il y a eu vraiment des efforts concertés, ciblés pour arriver à un résultat. Mais sauf qu'en termes de droit, quand il y a deux possibilités, une poursuite administrative, par exemple, il y avait, c'est quoi le CHSLD dont on avait parlé l'an passé, dans le Bois-Saint-Laurent?
Ouais.
Puis le gars, il a fermé
ce ah oui, 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 non, c'est pas sur la rive sud de Québec,
Lévis,
tout à fait, oui.
Il rouvre avec un autre nom.
Oui, oui, absolument. Ben oui, le gars avait des antécédents en plus.
Ça. Mais en droit administratif, les antécédents du gestionnaire comptent pas.
Oui.
Et puis en droit criminel, ben, faut faire une preuve hors de tout doute. Fait que entre les deux, il y a pas mal d'espace.
Mais là, j'ai bien hâte de lire les conclusions de la coroner qui est sur le dossier. C'est Madame Kamel, je crois, là. Alors, j'ai bien hâte de voir ça parce que ça va peut-être nous donner des pistes des réflexions. On va certainement formuler des recommandations pour éviter un autre épisode du CHSLD Run. Enfin, souhaitons-le.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, c'est l'heure du rapport des commissaires. Commissaire Ferrandaise, on vous donne l'antenne.
Un gâteau de mariage puis un pudding au pain.
Bon, on est dans les pâtisseries. Parfait.
Le gâteau de mariage pour Catherine Fournier.
À Longueuil. À la mairie, oui.
Parce que l'intention ferme exprimée de protéger tous les boisés restants, ça serait 12 % du territoire, 1500 hectares. De boisé, c'est 8 fois la taille du parc du Mont-Royal. La raison pour laquelle c'est si enthousiasmant comme nouvelle, c'est que beaucoup de municipalités tentent de développer au maximum leur terrain pour aller chercher plus de taxes. C'est de faire une déclaration comme ça ferme, parce qu'il y a les autres membres, je pense qu'ils vont peut-être avoir d'autres à Longueuil, des candidats qui vont aussi faire des déclarations fermes, parce que dans leur plateforme, il y a déjà des intentions de protection du territoire. Mais une déclaration ferme, en élection, de dire « je vais faire ça », ça t'attache les mains quand même. Alors, prochain promoteur qui va vouloir couper un boisé à Longueuil, et là, c'est là qu'elle va être dans le trouble, par exemple. Parce que Montréal a une intention ferme de protéger 15 % du territoire. Pas 12, mais 15 %. Mais après ça, j'ai moi-même participé aux négociations pour acheter des terrains, puis ils pèsent fort sur le crayon, on t'a dit, les propriétaires de terrains. Hein. Et puis, la loi sur l'expropriation, qui est différente au Québec de toutes les autres provinces du Canada, fait qu'on doit acheter à la valeur du propriétaire, donc non seulement la valeur marchande, mais en plus prendre en considération les projets qu'il pourrait avoir eu l'intention de faire sur le terrain un jour. Et même, ils mettent des projets qui ne correspondent pas au zonage. Par exemple, c'est un terrain industriel, moi je veux bâtir des condos, donc tu me dois tant pour le terrain. Ben voyons, des condos, c'est un terrain industriel. Oui, mais j'avais l'intention de faire changer le zonage. Fait que, tu sais, c'est extrêmement slack, la loi sur l'expropriation au Québec. N'aide pas les municipalités. Et là, on a une jeune candidate qui dit « Je fonce dans le tas, puis je veux protéger du territoire. Bravo. » Je fais la différence aussi avec des maires et des municipalités comme Mirabel, Rosemère. Je reçois des courriels tous les jours, Saint-Jean-sur-Richelieu, des courriels, pas tous les jours, toutes les semaines, de boisés menacés, de citoyens qui voient que leur municipalité rase et coupe sans égard à la nature. Il y a aussi d'autres villes comme Bromont-Saint-Donat qui sont des fleurons de défense du territoire. Terrebonne aussi. Donc, les municipalités sont en ligne là avec un nouvel enjeu, puis j'espère que les élections s'en viennent, tout le monde va faire preuve de leadership dans le domaine.
OK.
La pudding au pain!
Bon!
Aimes-tu la pudding au pain?
Non.
Il aime pas ça.
C'est full cannelle en plus.
Et tu détestes la cannelle. Ah,
non, mais tu t'étouffes avec ça.
Alors, c'est pour qui le pudding?
Pour Legault.
Parce que?
Ben, sa liste d'épicerie pour le fédéral. Eh, mon Dieu Seigneur. Il faut qu'il prie pour que O'Toole soit élu, là, avec ce qu'il vient de dire, là. Parce que là, il a mis toutes ses billes dans le même panier, là. Toutes ses billes sur le même candidat. Il déclare que, bon, c'est son candidat parce que il parle de décentralisation des pouvoirs. Il va y donner de l'argent pour le troisième lien. Il a parlé de l'immigration aussi, la possibilité de décentraliser du pouvoir sur l'immigration. Donc, ce qu'il a dit, c'est il a même dit qu'il allait faire des transferts en santé. Fait que là, évidemment, Legault nous dit plus ou moins voter pour O'Toole, tu sais. Mais tout à coup, c'est pas lui qui est élu. Il se passe quoi? Parce que là, il y en a un qui va l'haïr en maudit, là. Parce que Trudeau a quand même fait des efforts, a donné de l'argent pour l'aéronautique au Québec récemment, une annonce de 800 millions, l'Internet haute vitesse, les services de garde, il y a une contribution de, c'est quoi,
6 milliards sur de dollars. 5 ans.
Fait que moi, je t'ai donné tout ça, puis en pleine campagne, là, tu t'en vas me slammer, là, bading, badang, pif, paf, l'aller et le retour, tu sais. Ben, peut-être que ce sera pas des bons amis si jamais c'est le Trudeau qui est élu.
OK. Et tu termines avec quoi? T'as-tu fait le tour?
Ben, non, c'est parce que là, j'aurais pas le temps pour l'autre, il est trop long.
Ben, tu peux pas donner.
Hey, donne-nous un exemple. Ouais, tu peux pas nous laisser comme ça, là.
Ben oui. Ah, OK. Ben, et les problèmes, tu sais, moi, je vous annonce tout de suite qu'on est là pour longtemps à faire de la chronique.
Parce que?
Parce que les problèmes reviennent. Fait que nous autres, avec, on va revenir.
Souvent les mêmes.
Oui, c'est ça. On l'a vu pour les CHSLD, là. Là, on a un problème qui est en voie de résolution. Hein? La consigne sur le verre, un problème en voie de résolution. Il y en a quelques-uns comme ça. Mais cette semaine, on a vu dans les journaux un débordement de problèmes qui ne se régleront jamais. D'abord, la congestion, les annonces de travaux. 4 ans pour le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Je sais pas combien d'années pour le tunnel Vigée-Sainte-Ville-Marie. Après ça, bon, congestion, ça se réglera jamais. Pénurie de profs à Montréal. Moi, je m'en fous, hein. Vous voulez pas la régler, je vais ressortir ma chronique l'an prochain, puis l'année d'après, ben, elle est déjà écrite. Hein? Je vais la sortir à chaque fois, puis je suis payé pour faire des chroniques, fait que ce jour-là, ça me coûtera pas cher. Ça me coûtera pas beaucoup de recherche. Encore à Montréal! Mais c'est ça, faites-en des conventions collectives mur à mur à travers le Québec, puis le problème est juste à Montréal. Bon. Pénurie d'infirmières. Pénurie d'infirmières, on va en parler pendant combien de temps, ça, de la pénurie? Et particulièrement pénurie d'infirmières à Montréal et logement. Les 4 problèmes sont arrivés cette semaine. Les 4.
Madame, c'est à votre tour.
Oui, catégorie, se faire prendre les culottes à terre. Ben, la preuve vaccinale du premier ministre qui a été piratée de Montréal. Et là, j'ai encore en tête la déclaration d'Éric Kerr, le ministre responsable de la transformation numérique. Non, 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 on peut pas la falsifier, on peut pas la copier. Non, c'est hyper sécuritaire. Et Vlan, 48 heures après, toi, il se fait prendre les culottes à terre. Non seulement la preuve vaccinale du PM et de d'autres élus a été piratée, mais il y a des failles également, c'est Radio-Canada qui nous l'apprend, il y a des failles qui permettent de générer des faux codes QR, imaginez. Fait que je pense qu'aujourd'hui, le ministre Kerr doit gérer une petite crise. Moi, j'ai bien hâte j'ai hâte à la réponse. Là. On fait
ben,
quoi,
il nous a dit deux choses tantôt. Trois choses.
Tu lui as parlé.
Ouais. Un, il va y avoir une enquête criminelle, ça c'est sûr. Deux, que la faille sur le code QR est corrigée ou sera corrigée.
Ah ouais?
C'est ce qu'il dit.
Vite à matin, là.
Ouais. Ben non, mais je pense qu'ils l'ont vu venir.
Non, non, mais oui.
Mais il y a quelque chose, là où ça y est, je vais donner un exemple. Si tu vas, dans un compte de banque, OK, puis tu rentres ton mot de passe, tu te trompes, tu peux recommencer. Mais tu peux pas te recommencer à l'infini. Là. À un moment donné, il va bloquer puis il va avoir une alerte. Ah. Dans le cas qui nous intéresse, là, t'as un chiffrier, il te manque 2 numéros pour le numéro de carte d'assurance maladie. mais tu peux entrer sans arrêt.
OK. Fait que tu peux faire tout
ça. Et lui, il dit, c'est pour rendre ça casual pour le monde.
OK.
Pense pas. Mais j'ai dit, vous avez corrigé à faire jusqu'à la prochaine.
Voilà.
Mais c'est sûr qu'il va en avoir. Marc, l'information disponible n'est pas hyper sensible.
Non, c'est ton nom.
Ça a l'air fou.
Mais ça a l'air fou.
Ben oui.
Ça a l'air fou.
Alors, deuxième catégorie, y a-t-il un pilote dans l'avion?
Ah oui.
La violence dans les rues de Montréal et de Laval. Et moi, je dis, où est le leadership policier sur cette question-là? Pas politique, le leadership policier, parce qu'il revient, entre autres, au chef de police de la ville de Montréal, avec son état-major, à nous communiquer son plan. Parce que l'aspect criminel, il nous dit, oui, il faut lutter contre le trafic d'armes et tout ça. Mais il y a aussi un pendant à la lutte à la criminalité qui est le sentiment de sécurité pour la population. Et là-dessus, il n'y a pas de message assez rassurant ou rassurant tout court. Je ne sais pas dans votre environnement, là, mais moi, j'entends parler de ça. Là. Les gens sont de plus en plus préoccupés, inquiets.
Ben, écoute, juste ce matin, de cette nuit, des coups de feu à Saint-Léonard, à peu près à 200 mètres d'un autre immeuble où il y a eu des coups de feu il y a quelques jours. Là, tu sais, ça commence à faire beaucoup. Là.
Oui, absolument. Puis le sentiment de sécurité, je l'ai déjà dit, c'est aussi important que la sécurité elle-même.
Est-ce que tu penses que ça va être un enjeu de la campagne municipale pour
clairement,
vrai?
Clairement, ouais,
clairement. Le cheval de bataille de Collard.
Ben, Denis Collard, justement, ce matin dans la presse, il dit on est dans la mauvaise direction. Ben, j'espère qu'on est dans la mauvaise direction. Mais en même temps, il faut juste prendre aussi un peu de recul et relativiser les choses. Faites une recherche Google, 2007. En 2007, là, les gangs de rue, là, attends une minute, il y en a eu des crises là en 2007.
Il y a une époque où on parlait presque tous les jours dans les journaux des Reds puis des Blues.
Oui, exactement, c'est ça. Mais n'empêche que c'est un enjeu qui est extrêmement préoccupant. Troisième catégorie, ben on se croirait dans le, tu sais, c'est le jour de la marmotte, Olimel. Olimel, après les poulets, les cochons.
Ah oui, ils commencent à être gros, les cochons.
Ben
les cochons,
oui,
là.
Non, mais ben réglez ça, là. Ils ont dimanche.
Parce que si t'es
tue
pas, ça grossit, hein.
Ben je comprends. Mais t'as-tu vu des images à la télé?
Un cochon par camion.
Ils sont tous parqués dans des enclos, les pauvres bêtes, non, puis les pauvres producteurs.
Ah oui.
Alors, entendez-vous, faites quelque chose. Il semblerait que le syndicat qui a refusé l'arbitrage prétend qu'ils sont pas loin d'un règlement. Mais il faut que ça se règle d'ici dimanche.
Oui, c'est
là.
Ça. C'est pas mal la date butoir.
Ouais. Et puis en terminant, mais moi, je veux témoigner notre impuissance, notre désarroi face à ce qui se passe en Afghanistan. On c'est loin de nous, mais en même temps, je sais pas, on est touché par ce qu'on voit. L'attentat hier qui a fait une soixantaine de victimes et la réponse du gouvernement du Canada, c'est qui s'enfarge dans les fleurs, dans leur absence de réponse, c'est de grand flou. Enfin, je trouve ça très, très triste ce qui se passe là-bas. Très,
j'ai une
très
question pour toi, Nathalie.
Oui.
Toi qui connais bien Éric Duhem, là. C'est-tu naturel qu'il prenne une petite face d'épagnole puis d'enfant battu quand il va s'asseoir parce qu'il se fait expulser d'un comité parlementaire?
J'ai trouvé ça, moi aussi, le petit chien battu.
Puis là, puis là, Mme Samson qui s'en va le réconforter, là. Tu sais, mais c'est comme...
Mais il y a eu une joke sur Twitter. Il y avait cette photo-là, puis le texte qui était écrit dans la bulle, c'était « Assoyez-vous là, M. Duhem, votre maman va venir vous chercher.
» Non, mais entre nous, là, Éric est assez intelligent. Il avait planifié sa sortie.
C'est sûr.
Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, lui a répliqué justement par Twitter en disant « Écoute, Éric, moi-même, je peux pas entrer dans une salle de commission parlementaire. Tu savais très bien ce que tu faisais. » Mais savez-vous quoi? On en parle aujourd'hui.
Ben oui.
Ça alimente les médias.
Et bien sur ça, je vous souhaite bonne fin de semaine.
C'est 23.